28 janvier 1960.
Nous envisagions le distancement la semaine dernière comme étant à la fois condition de notre civilisation, notre sécurité, et en même temps comme un renoncement à connaître la chose dans sa vérité. Et ceci aussi bien dans les rapports militants de l'homme avec ses semblables que dans la connaissance de la vérité. Et il faut remarquer que la rançon que nous payons ainsi pour la distance n'est pas une conséquence ou un contre-coup indirect qui découlerait d'un avantage qui nous est offert, comme la conséquence suit de son effet, mais que c'est que l'inconvénient est dans l'avantage, inhérent à cet avantage, et aussi lié à l'avantage que le verso l'est au recto, n'est-ce pas, parce qu'on dit qu'une médaille a son revers. Eh bien, dans ce cas, tout avantage se paye d'un inconvénient qui n'est pas, à proprement parler même, la conséquence de cet avantage, mais qui est cet avantage lui-même, vu sous un autre aspect, qui est l'infériorité inhérente à toute supériorité. C'est ce que nous appelons souvent ici l'alternative, qui est l'infinitude, la marque même de l'infinitude de l'homme. C'est donc comme la malédiction qui grève, qui obère toute supériorité, toute victoire, la servitude, qui est l'hypothèque de toute libération, et qui donc n'en est pas séparée par un intervalle de temps, comme l'est la conséquence par rapport à son effet, mais qui est une tare congénitale, en quelque mesure. Donc il ne faut pas comprendre, comme nous l'avons dit dans notre langage empirique, pour mieux nous exprimer, que en prenant ses distances, en se mettant au large par rapport à l'objet, l'homme, évidemment, assure une connaissance plus analytique, minutieuse de cet objet, et que, d'autre part, il se met à l'abri du danger qui peut en résulter, mais que ceci présente de graves inconvénients, comme, par exemple, de ne plus le connaître dans sa vérité, mais il faut dire que l'un est dans l'autre, lié à l'autre, et que n'est qu'un aspect même de l'autre, et en quelque sorte, un aspect métaphysique. Rappelez-vous que nous avons dit, ceci peut sembler contradictoire avec ce qui est dit maintenant, mais moi-même j'ai pris conscience de la difficulté que, après avoir rassemblé toutes ces idées ensemble, nous avions dit que par la vision synoptique, l'homme se donnait de toutes les choses étalées devant lui. Dans leur coexistence spatiale, ils s'en donnaient, disions-nous, une espèce de vue immédiate. À cette époque, nous avions l'air de considérer comme immédiate la vision panoramique que l'homme se donne des choses, étalées dans l'espace lorsqu'il les soustrait au temps. C'est-à-dire, lorsqu'il s'en donne une appréhension globale, selon laquelle toutes choses sont données au temps, en se soustrayant lui-même au tâtonnement dans la durée, puisque, ajoutions-nous, c'est dans le devenir, dans la durée, que s'accomplissent les tâtonnements discursifs qu'on appelle la médiation, l'effort, le labeur. Donc, en se les donnant à lui-même étalés dans l'espace, et il semble que l'homme se les donne à part de ces tâtonnements, en les soustrayant au devenir. Seulement, ce que nous n'ajoutions pas à cette époque, et que nous disons maintenant, pour montrer que, là aussi, cette immédiateté optique est une supériorité à double tranchant, une supériorité qui est en réalité, qui comporte une infériorité et qui, immédiate par un côté, est au contraire misérablement médiate par un autre, comme toute chose dans ce monde. Ce dont il faut dire maintenant, c'est que cette immédiateté s'obtient par un survol des choses, qui est à sa manière une espèce de recul, mais un recul dans la hauteur. De même qu'on se recule à quelque distance de Notre-Dame pour mieux en contempler la façade d'une seule vue, qui est assurément immédiate, mais probablement en se refusant à soi-même certains détails, en se soustrayant à l'emprise de Notre-Dame lorsqu'on est dans l'ombre même de la cathédrale, lorsqu'on est pris par la pénombre, lorsqu'on en respire l'odeur, n'est-ce pas ? On ne peut pas avoir tout à la fois. Il faut donc choisir entre la vue d'ensemble et cette participation à l'atmosphère générale du sanctuaire. De la même manière, on peut s'en donner une autre vue synoptique en la surplombant, en prenant une vue cavalière ou même une vue panoramique en avion. C'est donc une façon de reculer, mais en hauteur, et d'un distancement par l'altitude. Je n'ai jamais dit qu'il n'y ait de distance que celle que l'on crée entre soi et l'objet en reculant. Il y en a une que l'on peut créer en le survolant, en montant en l'air. Eh bien, comme c'est un recul, qu'il s'agisse d'un recul dans l'espace, sur le même plan, ou qu'il s'agisse d'un recul en hauteur, le mot recul, déjà, est un mot qui pourrait paraître assez peu noble, et qui enveloppe non seulement un élément de phobie et de timidité, et il y a de ça dans le recul, n'est-ce pas? On se recule pour ne pas être à la portée du danger. On se recule pour par crainte des promiscuités, par crainte du contact. Il y a donc à la fois un élément de phobie et un élément de dédain, légèrement condescendant, n'est-ce pas, la crainte de participer, le refus des promiscuités, ce que tous les latins exprimaient par le verbe despicere, regarder d'en haut. Et ainsi, l'homme du panorama, l'homme, le synopticos dialecticos dont parle Platon dans la République, l'homme synoptique, juché sur son observatoire, se donnera une vue cavalière de la bataille de Waterloo ou de la bataille de Borodino, mais ce qu'il ne connaîtra pas, c'est ce à quoi il renonce, c'est à la vérité du fantassin, n'est-ce pas ? La vérité de la piétaille. Le fantassin, lui, a une autre manière de saisir la vérité de Waterloo ou de Borodino. Une vérité complète devrait conjoindre les deux. Il faudrait avoir à la fois la vérité du général de division, n'est-ce pas, qui est la vérité stratégique des rapports des forces, de la façon de tactique et stratégique dont se déroule la bataille. C'est comme ça que les généraux voient les choses, comme Napoléon à la bataille d'Eylau. Et puis il y a une autre vérité, toute différente, qui est aussi une vérité, bien qu'elle ne soit pas stratégique, et qui est celle de la misérable piétaille jetée dans l'action, et qui est une vérité qui sent la fumée âcre, le sang, le cadavre, la boue, enfin, une vérité mêlée à la fumée, aux odeurs et aux angoisses. C'est donc bien une vérité aussi, et le généralissime ne la connaît pas. Il y a donc deux vérités également vraies, on ne peut même pas dire à proprement parler laquelle est la plus vraie, car elles n'ont pas de commune mesure, n'est-ce pas ? L'une, en effet, celle du fantassin, est une vérité comme nous disions, ontique, faute d'un meilleur mot. C'est une vérité à laquelle on participe par son être, par l'odorat également, par la peur viscérale, n'est-ce pas, la peur des organes, l'angoisse du corps, à la fois par l'esprit et par le corps. Et puis il y a une autre vérité qui, elle, est de nature rationnelle, en partie, ou géométrique, mais qui parfois est incomplète parce qu'il lui manque l'autre. Alors Dieu connaîtrait, enfin, Dieu, les anges, ce que vous voudrez, dans l'absolu, on connaîtrait les deux vérités à la fois, c'est-à-dire celle du fantassin et celle du général. On verrait la bataille de Waterloo à la fois du dedans et du dehors, d'en haut et d'en bas, de la boue comme les misérables fantassins, et du haut de l'observatoire comme le général, de même que Dieu voit les sanctuaires qui lui sont dédiés, à la fois du dedans, du dehors, de face, de côté, de profil, de l'abside, enfin, toutes les vues que les hommes, que les photographes prennent par plusieurs points de vue différents, parce que ce ne sont que des hommes, eh bien, dans l'absolu, on les voit tous à la fois. Leibniz dirait, Dieu n'a pas de point de vue. La monade des monades n'a pas de point de vue. C'est l'homme qui a un point de vue excluant les autres. Le général a un point de vue, le point de vue qui fait gagner la bataille, le plus synthétique de tous. Le fantassin en a un autre qui ne prétend pas à la synthèse, parce que d'abord il n'y comprend rien. C'est pas, vous rappelez le récit que fait Tolstoï dans La guerre et la paix, sur ce misérable fantassin qui ne comprend rien au mouvement des troupes, et celui de Stendhal dans La chartreuse de Parme, qui ne voit que la misérable débandade des hommes qui courent et qui ne saisit pas le sens de tout cela, qui ne voit pas les lignes de force, qui ne saisit pas, qui ne peut pas faire un graphique. Donc, ce sont également des points de vue l'un et l'autre. La vérité pétrie avec la vérité qui est pétrie avec la réalité de tous les jours et avec nos sentiments, et la réalité synoptique ou panoramique. Par conséquent, nous dirions que se réfugier dans la hauteur, puisque c'est de cela que nous parlions en parlant des synopses et du panorama, c'est une manière aussi de se protéger par l'éloignement de toute participation à ontique et vécue, et qui serait gênante avec la chose, et par conséquent une manière de ne pas la vivre. On monte sur un observatoire, non seulement pour voir la vérité étalée devant vous, mais et donc en ascendant d'une certaine manière pour la voir globalement, synthétiquement, et en ce sens immédiatement, mais d'une autre manière, on la regarde d'en haut pour ne plus y participer, c'est-à-dire pour reconstituer la distance et avec elle, malgré tout, la médiation. Et par conséquent, l'optique contemplationniste, si j'ose employer ce mot barbare, l'optique contemplationniste est toujours la recherche du point de vue d'un spectateur soustrait à la participation. Soustrait d'abord à la médiation de la succession tâtonnante. Et puisque tout à l'heure je parlais à propos du point de vue de Leibniz, Leibniz chez qui abonde précisément les métaphores de l'optique, c'est peut-être un peu son siècle qui veut cela, n'est-ce pas ? Et dans la Théodicée, Leibniz parle beaucoup d'observatoire, n'est-ce pas, d'une vue panoramique sur le monde entier, il y a à cela les raisons. C'est que Leibniz ne tient pas tellement à regarder les détails du monde, il y a trop de fumée, de boue et de sang. Et comme vous le savez, il ne tient pas tellement à ce qu'on lui parle de ce mal. Il préfère les grandes fresques, les grandes tapisseries. Vu de loin, le monde est un spectacle assez plaisant, comme la bataille des Lots pour Napoléon, quand on n'est pas dedans, n'est-ce pas, et qu'on ne risque pas sa peau. C'est un spectacle assez artistique, que la vue de cette bataille. Tel est le monde pour qui se soustrait à ses défectuosité et au mal qui peut être en lui. C'est donc que la recherche du point de vue est ici la recherche de la distance dans laquelle disparaît le mal, n'est-ce pas, dans laquelle les imperfections du monde se résorbent et font une ombre assez agréable au tableau. Il y a donc dans cette recherche la phobie du contact direct, et je montrerai ultérieurement pourquoi la quête de l'immédiat, et on se la représente souvent comme la recherche de ce contact direct, le monde et la vie transformés en fresque, la transformation en tapisserie, ou en fresque, comme vous préférerez. Que l'on contemple du balcon, Leibniz est un philosophe au balcon. Un philosophe au balcon qui regarde la rue, qui regarde passer des passants, et sans participer lui-même au vacarme de la rue. Et tout au plus, enfin, comme il nous arrive, quand on regarde la rue, les chiens écrasés, les faits divers, on s'amuse parfois à se dire « je voudrais être ce monsieur qui passe ». Ce monsieur qui passe est charmant. On joue d'être celui qui est dans la rue, tout en restant au balcon. Donc, il y a un peu de cela dans cette volonté de regarder pour ne pas être. Bien souvent, le philosophe, le métaphysicien, regarde pour ne pas être, parce que regarder est une des manières, non pas tellement d'avoir une vue globale des choses, mais encore de ne pas y participer, en jouant avec l'être des autres, juste le temps de se faire peur. L'homme regarde pour ne pas être, et fin d'être l'autre, juste le temps d'avoir un peu peur, parce que il y a là un jeu qui n'est pas sans agrément. Donc, si la vision à cet égard est une immédiateté, c'est une immédiateté intemporelle. Et il y a donc une objectivité spéculative, soustraite, elle, au temps, mais au temps aussi dans la mesure où le temps est une chose vécue. Soustraite cette fois, non point au temps de la... Dans la mesure où cette objectivité est soustraite au temps de l'effort... Du labeur et de la médiation discursive, on peut la dire immédiate. Mais dans la mesure où ce à quoi elle est soustraite, c'est le temps du drame, c'est le temps vécu de l'expérience vive de chaque minute, de l'expérience quotidienne dans laquelle l'homme est contemporain de lui-même et vit vraiment cette vérité, dans cette mesure, au contraire, cette objectivité est médiate, redevient médiate. Elle transforme le temps vécu en quelque chose d'exposé devant nous et hors de nous. Et alors, l'extériorité, pour un pareil spectateur, pour une pareille contemplation, l'extériorité est devenue une mince pellicule superficielle, une pellicule bigarrée, diaprée, n'est-ce pas, à la surface des choses, une enveloppe sans épaisseur vécue, une enveloppe qui n'est pas vécue du dedans, une enveloppe qui n'a pas d'intimité, un en dehors sans en dedans. C'est donc une manière de désengagement. Et c'est comme ça qu'on le prend, en général d'ailleurs, quand on recherche une attitude spéculative ou contemplative. On y recherche une manière de se soulager de la vie intérieure, de se soulager de la participation, et peut-être de donner congé à la musique, en un certain sens, dans la mesure où la musique se déroule dans le temps et implique une participation à la minute, si on peut dire, contemporaine de tous les instants du devenir, et dans la mesure aussi où la musique, qui est indiscrète, se saisit de nous-mêmes, pénètre dans nos entrailles, nous fait pleurer, nous transporte d'enthousiasme, nous rend triste, nous gai, sans raison, bref, s'installe dans nos viscères, dans notre affectivité, dans notre cœur, substitue des émotions d'ordre musical, mais réel aux émotions de la vie vécue. Dans la mesure donc où la musique est cela, c'est-à-dire une espèce de drame vécu et poignant et pathétique, et qui nous saisit de l'intérieur, regarder les choses est une façon de s'y soustraire, est une façon amusicale, non musical, donc non dramatique, de voir le monde. En excluant le drame, en déroulant le drame en tapisserie, et encore une fois, en se soulageant de sa vie intérieure. Je vais même représenter à cet égard la promenade que Liszt et Victor Hugo font ensemble au sommet de la montagne, puisque Liszt a écrit, c'est un petit bavardage de une minute, qui ne visterait pas longtemps, de problème de l'immédiat. Liszt a mis en musique le poème de Victor Hugo, « Ce qu'on entend sur la montagne ». Victor Hugo monte sur la montagne pour regarder les plaines du monde, n'est-ce pas, étendues à ses pieds, la nature et l'humanité, le bruit des cloches, le bruit de la mer, les voix confuses qui viennent des forêts, et aussi les cris des hommes et les clochettes des troupeaux. Tout cela ensemble qui monte de l'immensité de la terre au poète sur la montagne, qui voit tout d'une seule vue. Et le musicien qui fait la même promenade, puisqu'il met en musique ce poème, lui, se représente les choses d'une manière qui n'est pas seulement synoptique, mais musicale, c'est-à-dire comme un drame vécu, comme des choses qui arrivent l'une après l'autre et auxquelles nous participons et qui, par conséquent, nous convulsent, nous détendent ou au contraire nous saisissent par leur pathétique. Donc, il défait ce que le poète fait et en reconstituant la participation ontique et vécue de l'homme au spectacle qu'il a voulu s'offrir devant lui et qu'il croyait étaler devant lui. On peut dire que ce caractère indissociable de l'avantage et de l'inconvénient que je signalais en commençant, de l'infériorité et de la supériorité, est inscrit dans l'idée même du problème, dans la nature même du problème et dans le mot problème, car prendre ses distances, c'est aussi faire de l'objet un problème dans les deux sens du mot problématique, puisque le mot est à la mode et souvent prononcé. L'objet devient problématique dans les deux sens. D'abord, il devient problématique parce qu'en effet, il est jeté devant nous, comme l'implique le mot problème. Il est problème, il est comme un objet étalé devant nous, comme je le disais tout à l'heure, de la fresque ou de la tapisserie, et en cela, j'en suis le spectateur, devant lequel il est théoriquement, spéculativement jeté. Et ensuite, il devient problématique au sens courant de ce mot, qui veut dire douteux, contestable, par le fait même que l'objet devient un spectacle pour moi, et qu'il est jeté devant moi, par le fait même, il devient controversable. Il devient, par le fait même que je ne participe plus à sa vérité, du moins d'une manière ontique et vécue, un élément de doute s'installe en lui, et il est extirpé, parce qu'il est extirpé des racines de mon existence, parce que je cesse d'avoir, par rapport à lui, une attitude naïve, bref, une attitude immédiate. Donc, le caractère problématique du problème, de l'objet, implique déjà en lui-même cette double nature, cette rançon qu'il faut payer dans l'avantage même que nous avons. Car, bien évidemment, l'huître de Platon, que décidément nous dérangeons beaucoup cette année, nous courons souvent à ces mollusques, du phylèbe, à ces coquillages, et qui, elle, ne connaît pas de problème, comme bien entendu, puisqu'elle n'a ni mémoire ni anticipation, l'huître ne connaît pas assurément les inquiétudes spéculatives. Les inquiétudes de Faust, par exemple, sont inconnues de ces animaux. Le doute et l'angoisse inhérents à la problématisation, et notamment inhérentes au relâchement de l'adhérence de l'homme aux certitudes innocentes, n'est-ce pas ? Le moment où l'homme est déraciné lui-même de ses certitudes, et où elles sont ébranlées, et ceci est spécialement caractéristique dans le cas des certitudes les mieux installées, et celles qui coïncident le plus avec mon être lui-même, par exemple le fait d'être. Pour commencer, qui est l'étonnement métaphysique catexokène, le premier étonnement métaphysique, par excellence, c'est ça que ça veut dire, catexokène. L'étonnement métaphysique privilégié, qui est celui de la chose qui va le plus de soi, du cela va de soi le plus évident, c'est-à-dire d'être, puisque nous disions la semaine dernière que c'est le seul verbe qui est absolument indéterminé, absolument général, et donc qui en lui-même pose le moins de problèmes que tous les autres que je pourrais trouver sont plus déterminés que lui. esprit, et par conséquent plus problématique. Respirer, par exemple, pour ceux qui ont de l'asthme. C'est pas respirer, c'est facile, à condition de ne pas avoir de l'asthme. Enfin, en général, on s'en aperçoit pas, mais on peut s'en apercevoir. Les battements du cœur, quand on n'est pas cardiaque, le cœur fait son boulot et on s'en aperçoit pas. Mais quand on est cardiaque, alors ceci fait question. Mais être, ça ne fait absolument pas question. Même vivre fait déjà question. Donc, la problématisation, il n'y a que le premier pas qui coûte, ayant prononcé ces mots barbares, je suis conduit à en prononcer d'autres, la problématisation de l'essai, de l'être, elle, et de l'exister naïf, qui commence à faire question, c'est, comme vous le savez, le début de la métaphysique, et vous savez aussi, pour l'avoir lu, et plus souvent encore, pour l'avoir vu piller, car on oublie que c'est toujours chez Schopenhauer que se trouve cette phrase. Schopenhauer parle volontiers, après Platon, de l'étonnement, après le Théétète, de l'étonnement métaphysique qui résulte de la première problématisation d'un objet qui fait saillie sur pour la conscience, et notamment de la prise de conscience paradoxale de l'être, qui est le moins objet de tous les objets, et le moins problématisable, et celui dont on attend le moins à ce qu'il fasse saillie pour la conscience, à ce qu'il émerge pour la conscience. C'est le plus individu avec nous-mêmes. Donc, c'est là aussi où l'étonnement est le plus étonné, lorsque l'homme s'avise de se demander pourquoi il est né, et à quoi bon, et ce que signifie tout cela, et pourquoi quelque chose plutôt que rien, puisque je parlais de Victor Hugo se demande lui aussi, quand il a perdu sa petite fille, quand il se demande le sens de tout cela, ce que cela signifie. Ainsi, comme il apparaît maintenant, ce caractère à la fois distant, nécessaire à la connaissance, et douteux, peut frapper même les objets qui sont le moins faits pour cette distance, et auxquels nous adhérons le plus, et pour lesquels l'immédiateté est donnée d'une manière le plus indissoluble. Seulement, l'homme a besoin de la recréer à tout moment, malgré la perte de vérité. Malgré la perte de vérité que comporte le distancement, l'homme rétablit la distance quand elle, par hasard, il l'annule. Comme il lui arrive, dans un autre domaine, que nous aurons à comparer, le moment venu, à celui-ci, comme il lui arrive de recréer la distance pour se passionner lui-même, pour retrouver la ferveur du sentiment. Et parce que, en effet, il a besoin de l'absence et du déchirement, et même de la mort, pour passionner ses attachements. Eh bien, de la même manière, et d'ailleurs l'inverse pourrait se dire aussi, c'est dans le malheur qu'il prend conscience du caractère précieux de ses attachements, qui dit précieux, dit précaire, n'est-ce pas, et ceci, sans jeu de mots. La mort est bien là pour nous le faire sentir, puisque sans la mort, la vie des êtres qui nous sont chers, sans la possibilité de mourir, cette vie ne nous serait pas si précieuse, sans le caractère unique, irremplaçable, incompensable, fragile de l'existence de quelqu'un qui nous est cher, eh bien, nous ne prendrions pas conscience de ce caractère précieux. Donc, il y a un besoin de recréer artificiellement même cette distance dans le malheur, pour en prendre conscience. Et il y a du reste un jeu que l'homme joue avec la distance, car cette distance, ici, a un caractère ludique. Un caractère de jeu, comme on le voit bien dans le roman, n'est-ce pas? L'homme se passionne lui-même par les romans qui inventent des obstacles et les traversent à cette unité. Eh bien, il en est de même pour la connaissance en général. Et on peut dire que le recul et la distance, qui sont d'ailleurs, comme nous montrons en quelques instants, qui sont une espèce de mort, l'homme les recrée aussi à tout moment, car il veut à tout moment cesser d'être ce qu'il connaît pour le connaître, et devenir cet autre pour le connaître, puisque l'autre est le non-être que de moi-même. Et la négation de moi-même, ni sur un point l'être du connaissant. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est du vide, de l'éloignement, qui, après tout, est une espèce de mort, à sa manière. Donc, de même que la présence ou la possibilité de la mort ne me sert à passionner mes attachements, à me les rendre plus précieux, ou simplement, plus simplement encore, à en prendre conscience, de la même manière, le recul et la distance, qui sont des espèces de morts, des morts partitives, des morts partielles, m'aident à reprendre conscience de l'objet, à lui redonner sa signification d'objet. Comme il arrive, par exemple, lorsque quelqu'un meurt. Lorsque quelqu'un meurt, et par conséquent, dans la mort, a rompu les liens dans lesquels il est engagé avec moi, sa mort et redevient, dans la distance, un objet, une biographie, une œuvre d'art, une chose sur laquelle on peut spéculer, et qui se découpe en une carrière, en une biographie. Quelque chose qui a une signification et dont le sens se dégage par la rupture même de ses liens et de ses attachements. Lorsque le vivant était mêlé à moi, à ma vie, formant un tout indissoluble avec elle, je n'avais pas conscience du message qu'il représentait. Mais lorsqu'il a disparu et que sa vie est devenue une vie pour le dictionnaire, c'est pas une vie qu'on raconte dans le dictionnaire, une vie comme les autres vies, cette vie acquiert une signification par l'arrondissement, en quelque sorte, qu'elle n'avait pas lorsqu'elle était mêlée à ma vie réelle, dans les liens étroits avec elle. C'est donc, de nouveau, le vide de l'éloignement, ici, qui, en desserrant le contact étouffant qu'on a avec le donné, et qui empêche la problématisation et l'objectivité, et c'est ce vide qui laisse connaître, qui permet de connaître, non point qui fait connaître, mais qui permet de connaître. Donc, d'une certaine manière, c'est le non-être, dans la mesure où l'absence est un non-être, qui permet de connaître. Et de telle manière que la vie devient connaissable, la vie de quelqu'un, la vie d'un autre, devient connaissable comme objet lorsqu'elle est séparée de moi par le vide, cette fois définitif, de la mort, qui en dégage la signification. Et quand je dis « dégager », le mot est évidemment assez difficile à comprendre. En tout cas, il y a le dégagement dans cette idée du caractère exemplaire, d'un spécimen de destin, enfin du caractère objectif de cette existence qui m'est devenue étrangère. À la lumière de ces réflexions, de ces remarques sur la nécessité du vide, qui est un non-être, on comprendra mieux la recherche passionnée de l'immédiat, qui est une des marques de l'époque que nous vivons, peut-être le choix qui a été fait d'un pareil sujet de cours cette année, sans que moi-même j'en ai conscience, c'est que la recherche de l'immédiat a pour objet de faire cesser l'exil de la distance, de combler ce non-être de l'éloignement et de l'absence, de faire cesser un exil qui est une espèce de mort, de jeter à une passerelle, ou plutôt même de nier purement et simplement, un vide qui est une mort partitive, comme nous le disions, si tant est que cela ait un sens, car une mort n'est pas justement partitive, et elle n'est mort qu'à ce prix, qu'à condition d'être totale. Il faudrait donc se représenter une mort partielle, si cela est possible, dans laquelle l'homme meurt à l'objet, comme on dit, dans le sens où on dit « mourir au sensible ». Pour connaître l'objet, il faut tout au moins mourir à l'objet, sans mourir pour autant, parce que la connaissance n'est pas la mort, n'est-ce pas, bien entendu, mais c'est la mort sous un certain rapport, sous un certain aspect, dans la mesure où cette connaissance implique l'analgésie et l'insensibilité par rapport à toutes sortes d'objets de la vie individuelle. Et elle est d'une part, donc, la connaissance a comme prix la mort partielle de celui qui meurt à l'objet, mais d'autre part, elle a comme rançon aussi l'objet, le caractère mort de l'objet. Elle ne nous livre qu'un objet mort et exsangue. Donc, il y a deux morts dans cette bagarre. Moi-même qui meurs en partie, tout au moins à l'objet, et qui durant que je connais l'objet, n'existe pas en tant qu'homme étant, et d'autre part, la mort de l'objet, qui n'est connaissable qu'à condition d'être lui-même sans vie. Nous sommes donc deux à être morts, moi et l'objet. Deux morts, c'est beaucoup. Donc, d'une part, le sujet qui est mort pour l'objet. Et en effet, on peut dire qu'il est le sujet est dialectiquement mort pour l'objet qu'il n'est pas, et il est mort pour l'objet qu'il n'est pas afin de le connaître, puisque la condition pour le connaître, c'est de ne pas l'être. Je ne puis pas connaître ce que je suis. Donc, pour le connaître, il faut que je ne le sois pas. Donc, sur un point, il y a un point sur lequel je n'existe pas, si vous voulez. Et d'autre part, c'est l'objet qui est mort pour le sujet. En effet, comme nous le disions, ce n'est pas la peine de le rappeler encore aujourd'hui, puisque nous avons assez parlé du sophiste comme cela. C'est la seule chose dont je parle autant que des mollusques du filèbre. L'être du sujet est autre... l'être du sujet, d'abord, est autre que celui de l'objet connaissant, mais ce n'est pas encore assez dire. Car il n'y a pas seulement le vide de l'éloignement, il y a encore la scission intérieure. L'être de celui qui connaît est autre que la partie extatique, morte à elle-même, par laquelle il est tout en dehors, abstrait de lui-même, absorbé dans son objet, extraversé en lui. En effet, tandis qu'il connaît, le sujet connaissant continue d'être, n'est-ce pas, puisqu'il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est mort à l'objet, mais par ailleurs, il continue à exister, il continue à respirer, sans se préoccuper de sa respiration, et son cœur continue à battre, à envoyer le sang dans les artères, et le métabolisme continue à s'effectuer, normalement, les échanges dans le corps s'effectuent comme si de rien n'était, ou bien il y a peut-être des transformations, mais bon, en tout cas, ça se continue, l'être se continue, l'être ne cesse pas, sous prétexte que je connais, et même le paradoxe est... Ce n'est pas le lieu de l'étudier, puisque c'est une ironie que j'ai étudiée l'année dernière. Le paradoxe, c'est que si je cessais d'être complètement par la mort, je cesserais aussi de connaître. Donc, il y a quelque chose qui continue. C'est donc que la distance intervient également en moi. Non pas seulement entre moi et l'objet, devenu problématique, mais encore entre moi et moi-même, puisqu'en moi-même, il y a deux parties. Une partie qui est sortie de moi, qui s'est réfugié dans la chose pour la connaître, ou quelquefois même pour coïncider avec elle, et que nous comparions à une extase, et une autre qui se continue, et qui est l'être du sujet, l'être végétatif, dans lequel rien n'est interrompu. Car celui qui connaît, biologiquement, physiologiquement, continue à exister. Seulement, une distance s'est introduite en lui, et par conséquent, un état fissuré. Il est fissuré à l'intérieur. Il est, comme on dirait aujourd'hui, en état d'aliénation, aliéné à lui-même. D'une certaine manière, l'homme qui connaît, sans avoir trouvé le donné immédiat, sans coïncider d'une manière unitive et immédiate avec sa chose, non seulement en est séparé, mais il est encore, comme vous le voyez, séparé de lui-même. Il est scindé à l'intérieur par une aliénation. Car pour ce qui est de la pensée pure, l'être pur peut exister, par exemple... Laisser à l'état pur quand on dort, n'est-ce pas, ou dans l'inconscient. Je suis purement étant, et je ne pense à rien. Le sommeil sans rêve, dans l'état cataleptique, l'homme est un être qui est absolument étant, et rien d'autre. Mais par contre, il n'arrive jamais que l'homme soit pur connaissant, pur œil voyant, pur sujet connaissant. Mais il est d'un côté l'un et de l'autre côté l'autre. Donc dans la connaissance, il s'est quitté lui-même. Il a abandonné une enveloppe vide, une enveloppe rendue insensible. Et il est devenu non point un pur regard et un œil voyant, puisqu'il continue d'être, mais en tout cas la pure voyance en lui s'est séparée de ce qui était en lui un essai. Donc, on pourrait dire en un sens que d'une part la malédiction de la mort et d'autre part celle de la séparation intérieure, de la scission, est virtuellement me donnée dans l'alternative de l'être et du connaître, dans l'obligation d'être sans connaître ou de connaître sans être, et dans le choix qui nous est fait, le dilemme, comme nous le décrivions la semaine dernière, et qui semble bien insoluble au premier abord, dont il ne nous paraît pas possible de sortir. Le connaissant n'est pas mort à la rigueur, il n'est pas mort stricto sensu, mais il est quand même lié et scindé à l'intérieur. Il est scindé en même temps que séparé de l'objet lointain. Donc d'une part, une espèce de presbytie mentale, si on peut dire, c'est pas puisque c'est une vue à distance, comme celle d'un presbyte, et la condition même de pour voir la chose, et d'autre part, en étant séparé, et d'autre part, la fission intérieure. On pourrait répondre, mais bien évidemment, ce n'est point une réponse, c'est le contraire même d'une réponse. On pourrait répondre que c'est là la solution même de la contradiction. La contradiction est résolue par la dichotomie elle-même. La dichotomie, c'est la séparation et la réponse de la nature à la contradiction. L'homme ne peut pas à la fois être et connaître. Il faut choisir entre les deux. Alors l'être et le connaître se sépareront. Et donc, dans une certaine mesure, le moindre mal de la séparation intérieure, de la scission, nous dispense du grand mal, du déchirement. Il vaut mieux être séparé que déchiré. Il vaut mieux être double que déchiré. Donc l'homme est scindé par l'aliénation, parce que s'il n'était pas scindé, eh ben il en mourrait. Il serait écartelé par la contradiction, puisqu'il s'agit de deux contradictoires qui ne peuvent pas coexister. Et être et connaître ne peuvent pas, sous le même rapport, pour le même objet, pour le même sujet, du même point de vue, être ensemble. Eh bien, mieux vaut être d'un côté et connaître de l'autre. Donc, ce régime, si malheureux qu'il soit, si insuffisant, si tristement créaturel qu'il soit, d'être séparé, vaut quand même mieux que l'écartèlement ou que le déchirement, qui est une des formes du tragique. Ce n'est pas une situation tragique, c'est une situation pauvre, malheureuse, étriquée, mesquine. C'est le lot de l'homme, n'est-ce pas ? L'homme se traîne d'une vie misérable, n'est-ce pas ? N'ayant jamais une vue complète, il lui faut choisir entre l'observatoire du général de division et la vérité du fantassin. Il ne peut pas avoir les deux ensemble, mais une partie des hommes aura la vue cavalière du général, et l'autre, la plus nombreuse, aura celle du fantassin. Enfin, à eux tous, en les réunissant, ils feront bien une vérité totale, mais en composant l'une par l'autre, Dieu qui voit tout cela doit bien rire en regardant les hommes essayer de recoller ces morceaux. Enfin, ça vaut mieux, en tout cas, que le déchirement qui rend la vie impossible et qui serait le synonyme de la mort. Un homme déchiré par les contradictoires ne peut pas tenir, ne peut pas y résister, et ce régime serait intenable. Donc, dans une certaine mesure, on peut dire que l'aliénation est une espèce de solution, tout de même que la médiation est une espèce de solution. Une solution relative, une solution pour créatures misérables. On fait ce qu'on peut, comme les côtes mal taillées entre des époux qui ne s'entendent pas. On choisit une côte mal taillée. On ne peut pas ni être ensemble ni se séparer, mais on continue cas à cas. Donc l'homme continue à sa manière, cas à cas, en s'épargnant ce déchirement intragique et intenable. Ce n'est donc pas le même qui, du moins, ce n'est pas la même partie du même, ni au même point de vue, ni sous le même rapport qui est et qui connaît. Mais bien évidemment, ça n'est quand même pas la solution. C'est une solution de misère. Et en somme, ce régime de dualité ne fait que définir, au fond, le statut d'une conscience malheureuse, de la conscience résignée à l'alternative, résignée à être double. Résignée à une demi-vérité, n'est-ce pas ? Pour n'être pas déchirée, elle se résigne à une demi-vérité. On peut du reste représenter la duplicité autrement que sous cette forme. Sous la forme que je viens de dire, elle est commune à la fois à l'intuition qu'on a de soi-même, par exemple l'introspection, et à l'intuition qu'on a des choses, à l'intuition objective, n'est-ce pas ? D'un côté être, et de l'autre connaître. Et ainsi, Auguste Comte n'aura pas raison, on peut se regarder soi-même par la fenêtre. On peut se considérer soi-même. Seulement, ce n'est pas la même partie de moi-même qui, dans le même instant, est sujet et objet, qui vit, qui est et qui regarde. Et encore plus lorsqu'il s'agit des choses. Mais on peut se représenter aussi ceci valable, surtout pour l'introspection, mais dans un certain cas aussi, pour l'intuition objective, l'intuition des choses, que l'être et le connaître se séparent autrement encore. C'est-à-dire que je suis celui... Ce n'est pas la même partie de l'objet avec laquelle je coïncide lorsqu'il y a extase et que je regarde. Il y aurait dans l'objet deux parties, en quelque sorte, une avec laquelle je coïncide par manière d'extase, par manière d'intuition, et une autre que je regarde d'une manière objective, d'une manière contemplative. Dans l'introspection, je suis moi-même la chose connue. Mais dans l'intuition, il peut y avoir une assimilation partielle à l'objet. Et même dans ce cas, d'ailleurs, dans le cas où, par conséquent, il y aurait une partie de l'objet avec laquelle je coïnciderais par une participation, et l'autre que je serais sans le connaître, et une autre partie de l'objet que je connaîtrais sans l'être, même dans ce cas, il est bien évident qu'il s'agit d'une juxtaposition, de deux parties juxtaposées, et non point d'une véritable solution au problème. Il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas d'osmose entre les deux. Ce que je cherche, c'est d'être et de connaître à la fois, c'est-à-dire d'être ce que je connais, de connaître ce que j'ai, ce que je suis. Ce n'est point d'être une partie de l'objet sans la connaître, et de connaître l'autre partie sans l'être, car ça n'est que reculer la disjonction. La disjonction n'est pas surmontée, elle n'est que reculée, et encore d'une manière qui peut paraître bien peu vraisemblable, bien livresque, bien abstraite. Donc, la partie par laquelle avec laquelle je coïncide et la partie restante que je connais sont en somme correspondent à une séparation purement abstraite et qui n'a pas de vérité. Je n'ai pas éludé les deux insuffisances. Je n'ai pas encore véritablement éludé l'alternative. Donc, ce qu'il faudrait, c'est être l'autre en le connaissant. Et par de manière tout au moins qu'il y ait entre l'un et l'autre échange et osmose et transformation de l'un par l'autre. C'est à ce prix seul que je pourrais dire que j'ai cumulé l'être et le connaître, par conséquent surmonté l'alternative, et par conséquent que je me suis donné une connaissance paradoxalement immédiate de la chose, d'être ce que l'on sait. Une autre solution est possible également, qui est également une solution de misère, et qui représente non point la séparation dans l'espace des deux parties, comme tout à l'heure nous nous ingénions de manière un peu schématique à la représenter, mais dans le temps. Il y a donc une autre solution misérable, une solution à l'usage des créatures, qui s'offre à nous à l'alternative, c'est la solution temporelle. Le temps est en effet le grand pacificateur de la contradiction. Le temps, on pourrait dire qu'il sert à ça. Je ne sais pas s'il a été créé pour ça, mais en tout cas, c'est une des fonctions du temps que d'être une solution à la contradiction. Les contradictoires qui ne peuvent pas coexister peuvent se succéder. La nature même de la contradiction dit seulement que les contradictoires ne peuvent pas exister ensemble. Ils ne peuvent pas coexister uno et odemque tapore. Ils ne peuvent pas exister dans un seul et même temps. Mais s'ils ne peuvent pas coexister simultanément, dans un même temps, ils peuvent tout au moins se succéder. Ils peuvent être, par exemple, l'un d'abord et l'autre ensuite. Donc, le temps est fait pour ça. Ils peuvent être l'un après l'autre. Donc, si être et connaître sont des contradictoires, nous pourrions dire que l'homme qui peut pas peut-être être une partie de l'objet et le connaître à part, peut du moins tantôt être et tantôt connaître. Cette deuxième solution, c'est la solution du tantôt, si je puis dire. C'est la solution de l'alternance. La solution du tour à tour. L'un après l'autre, tantôt être, tantôt connaître. Encore une fois, le devenir a pour fonction de pacifier, de fluidifier, de lubrifier la contradiction, de la rendre fluide et glissante, de permettre de passer les contradictoires. Or, cette solution est, en apparence, préférable à la précédente, surtout qu'elle est préférable dans le sens, d'abord, où elle m'épargne la scission intérieure. Tout à l'heure, elle n'était possible que par la scission, n'est-ce pas ? Il fallait que je sois deux, une partie morte à l'objet et l'autre le connaissant, par exemple. L'être et le connaître séparés l'un de l'autre. Maintenant, la scission m'est épargnée, elle peut m'être épargnée. C'est tout l'homme qui tantôt est, tantôt connaît, n'est-ce pas ? Et il figure tout entier sous chacun de ses aspects, dans l'alternance, les jours pairs. Les jours pairs, je connais comme les mollusques, je suis comme les mollusques, et les jours impairs, je connais comme les purs esprits, et chaque fois comme un homme total, comme un homme intégral. Il semble que, tout au moins sous cette forme, le temps m'épargne, en même temps que le déchirement de la contradiction, que l'autre solution m'épargnait aussi, m'épargne l'aliénation. Le temps, en apparence, m'épargne l'aliénation. Autre part, il y a peut-être un espoir, et ici, je vais peut-être anticiper un tout petit peu, mais permettez-moi d'anticiper une seconde sur ce que je redirai quand même, malgré tout. L'espoir, c'est que l'alternance, en devenant de plus en plus rapide, me finissent par me donner à la limite l'idée tout au moins de ce que serait la fusion de l'un et de l'autre. Naturellement, si l'alternance est jour par jour, je ne connaîtrai jamais que la disjonction. Mais l'alternance peut devenir serrée, rapide, et à la limite devenir une espèce de vibration. comme il arrive lorsque l'alternance est très rapide. Elle devient une vibration dont la limite serait la synthèse de l'être et du connaître, comme tout au moins comme une limite que je peux entrevoir. Donc, j'ai cette fois, dans toute cette forme, dépassé tout au moins l'idée d'une ignorance mutuelle, d'une séparation définitive, des contradictoires, et je connaîtrai tour à tour l'un et l'autre. Et s'il faut définir ce tour à tour, montrer ce qu'il y a dedans, mais nous le connaissons, vous pourriez le dire à ma place, d'une part, c'est tantôt l'être dans la naissance naïve. D'autre part, la science dans le non-être. Et ce que je n'avais pas dit, en troisième lieu, à force de science, eh bien, un savoir tellement intégré à notre être, un savoir devenu tellement consubstantiel à notre substance, tellement coessentiel à notre essence, qu'il me renvoie de nouveau à l'être. Je suis renvoyé du savoir à l'être. Donc, d'une part, l'être naïf et indivis des origines, d'autre part, la science sans l'être, et en troisième lieu, une science devenue par sa profondeur, par l'habitude que j'en prends, devenue comme la circulation du sang, devenue comme les battements du cœur, devenue comme les contractions de l'estomac, devenue quelque chose comme une des formes de ma nature, comme ce savoir intégré et que parfois les mystiques appellent bizarrement un savoir vivant. Le savoir, à la limite, chez l'homme de la connaissance infuse, chez le mystique de la connaissance infuse, le savoir serait devenu paradoxalement, dérisoirement, comme une fonction physiologique. C'est comme ça que les anges savent l'arithmétique, si par hasard ils condescendent à ces sciences misérables. Que les anges font de la géométrie, n'est-ce pas ? Faire de la géométrie pour un ange géomètre, s'il y en a, n'est-ce pas ? Mais forcément, ils sont tous, donc géomètres également. Pour un ange géométrein, faire de la géométrie, comme dirait Platon, ce n'est pas plus difficile que pour nous respirer. Et c'est même encore bien plus facile. Voilà donc le savoir redevenu inconscient à cet égard. Ceci d'ailleurs, qui est vrai aussi, peut se redire de la vie morale, car si un pareil savoir, lorsqu'il ne s'agit que d'un homme et non pas d'un ange, me renvoie purement et simplement à mon point de départ, c'est-à-dire à l'état du poumon marin, n'est-ce pas, à l'état de l'étoile de mer, et rien de plus, car bien entendu ce sont les anges qui savent comme ça, mais pour un pareil homme, un pareil savoir ne se distingue en rien du sommeil. Il ne sait plus rien, cet homme-là ne sait plus rien, et il est devenu comme les êtres sans raison, les êtres dépourvus de prospection et de rétrospection dont parle Platon. Et le même caractère se retrouve dans la vie morale. À peine la sagesse est-elle devenue consubstantielle à mon essence par l'annulation de la distance, et notamment par l'annulation de cette distance qu'on appelle le devoir. Car le devoir est une distance, n'est-ce pas ? Le devoir est la distance qui sépare le réel et le devant-être, l'être et le devant-être, le présent et le futur, le réel et l'idéal, n'est-ce pas ? L'existence de fait et l'existence de droit, et la marge qui m'en sépare, que je dois combler par mon effort, par mon labeur. Eh bien, si, par une hypothèse absurde, je pouvais concevoir annuler cette distance, par exemple, des philosophes qui se croyaient philosophes, s'étaient posé sérieusement la question de savoir ce qui arriverait le jour où les hommes auraient fait tous leurs devoirs. N'est-ce pas ? Comme si, en effet, le devoir était comme les réserves de pétrole qui sont dans le globe. Qu'est-ce qui arrivera lorsque les hommes auront épuisé toutes les réserves de pétrole ? Alors, ils auront les atomes. Enfin, qu'est-ce qui arrivera lorsque les hommes auront épuisé toute l'énergie à leur disposition ? Eh bien, de la même manière, qu'est-ce qui arrivera lorsque les hommes auront fait tout ce qu'ils ont à faire ? Comme un monsieur qui, ayant fait tout ce qu'il a à faire, prend sa retraite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il vide ses rentes, il va jouer au billard. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Tout ce qui était à faire est devenu fait, est une chose faite. La chose à faire est devenue chose faite. Res facta, au participe passé passif. Le devoir être est tout entier passé en dépôt à l'arrière, dans les choses faites. Alors, c'est bien simple, c'est le règne de la grâce qui commence. Vous voyez, comme sous les couleurs riantes, sous lesquelles on se représente les absurdités, l'homme, ayant fait tout ce qu'il avait à faire, est devenu un automate moral, n'est-ce pas, automate spirituel, n'est-ce pas. C'est-à-dire que lorsqu'il lève le petit doigt, il est vertueux. Quand il se couche et ronfle dans son lit, il est vertueux. Quoi qu'il fasse, il est vertueux. Il est la vertu elle-même, la vertu à deux pattes. Il voudrait n'être pas vertueux, qu'il n'y arriverait pas. Donc, la vertu est devenue consubstantielle à sa nature. Là aussi, par l'annulation de la distance. C'est donc le passage que Samuel Butler se représentait comme le passage du règne de la loi, qui est le règne de la distance entre l'homme et la chose à faire, et le règne de la grâce. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait, ne bougez plus, tout est fait, et vous êtes parfaitement vertueux. C'est donc le moment où nous sentons bien que cette sagesse est devenue une farce. Comme tout à l'heure, l'homme tellement savant que sa géométrie était devenue comme une fonction de la vie, cette fois, le saint est devenu un imposteur, un farceur, un charlatan, et le pire des charlatans. C'est une imposture, c'est l'imposture vertueuse. Tant il est vrai que la chose essentielle n'était point précisément de le devenir, et qu'il est impossible à la fois d'être et de connaître, mais que l'essentiel, c'était justement la marge elle-même qui est entre, et la relativité de l'effort, et la relativité de l'intention qui s'ensuit, le mérite qui en est une conséquence, et qui rend difficultueuse l'obéissance au devoir, et qui fait que toute sainteté en acte est une imposture et une galéjade. Ainsi, vous le voyez, dans la vie morale encore plus que dans l'intuition de l'objet, le distancement se reproduit à l'infini. Et je pourrais encore citer l'amour, si je n'en avais pas dit un mot la semaine dernière, mais enfin, on peut le redire quand même, à peine l'amour accapareur, c'est pas l'amour boulimique, c'est pas l'amour captatif, a-t-il englouti son aimé ? L'a-t-il dévoré, comme Cronos qui dévorait ses enfants ? Et qui, par conséquent, n'avait plus rien à manger, puisqu'il mangeait même ses créatures, même ses enfants, que cet amour se consume d'ennui et se consume d'inanition. Regrette la distance, regrette l'éloignement, regrette l'absence, qui en l'espèce était l'indépendance de l'aimer, la possibilité de la posséder et de la dévorer. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, comme ceci les choses se rejoignent, je disais tout à l'heure que c'était la raison pour laquelle il aimait à passionner, à pathétiser, à dramatiser à tout moment sa propre ferveur, et à la dramatiser, à la pathétiser par des artifices romanesques, en reconstituant l'absence, les séparations qui rétablissent la distance, et qui en rétablissant la distance réchauffe le sentiment mobilise, réanime l'intrigue stoppée, car l'amour n'existe par cette intrigue elle-même, qui est une forme de médiation, qui est un labeur pour rejoindre l'aimé et pour la conquérir. Alors il faut trouver un moyen de remettre en marche la négociation amoureuse, de remettre en marche l'intrigue, de la mobiliser à nouveau, car il n'y a plus d'aventure lorsqu'on a dévoré l'aimé. Lorsqu'on a mangé son aimé, lorsqu'elle est digérée, et même lorsqu'elle est assimilée, c'est le cas de le dire, à notre substance, alors l'amour n'a plus d'intérêt pour cet amant repu, pour cet amant archi-repu, plus repu encore qu'un époux comblé. Alors l'homme déraisonnable, mais est-ce que c'est l'homme qui est déraisonnable? Est-ce que c'est pas plutôt le sort qui lui est fait, l'alternative métaphysique qui est boiteuse et qui est toujours qui ne lui donne une chose que pour lui en retirer une autre, qui l'empêche de cumuler ce qu'il aurait l'idée de cumuler? Alors on dit qu'il est déraisonnable. C'est peut-être à cause du sort qui lui est fait. En tout cas, cet homme passe son temps à rétablir la distance même qu'il déplore. Il pleurniche, il se lamente sur l'absence, sur l'obstacle, et il invente des obstacles qu'il passe son temps à planir pour les reconstituer ensuite. Tout cela nous montre, une fois de plus, que la sagesse et l'amour, comme la connaissance, n'ont évité Sylla que pour tomber dans Charybde. n'ont évité un danger que pour tomber dans l'autre et par conséquent ne sont pas arrivés à cumuler les contradictoires que nous voudrions cumuler. Ne sont pas arrivés à réaliser le miracle. Car peut-être que ce que nous cherchons est un miracle, puisque maintenant, pour l'appeler par son nom, cette immédiateté qui serait le cumul de l'être et du connaître, être ce que l'on sait, est peut-être la réalisation de l'impossible. Il faudrait que l'impossible s'accomplisse. Comment l'impossible va-t-il s'accomplir? Un miracle va-t-il se créer? Et la façon qu'ont les mystiques de se représenter cela, c'est en général de se placer après le miracle accompli. De se placer magiquement au moment où le miracle est accompli, c'est-à-dire où tout l'être du sujet est devenu son objet, comme le fait Plotin dans les Énéades. C'est ce que je montrerai la prochaine fois.